Est-ce qu'il y en a parmi nous qui sont impatients de mourir? Désolé de poser des questions un peu brutales. On n'est pas impatient. Est-ce qu'il y en a qui sont impatients de savoir ce qui se passe après la mort? Je crois que si on savait ce qui se passe après la mort, on aurait envie de mourir. L'apôtre Paul disait que il était partagé parce qu'il se disait « J'ai encore tellement de choses à faire parmi vous, mais en même temps, ce serait tellement bien d'être avec Jésus. » Et on va voir aujourd'hui dans notre passage qu'il y avait un homme, un roi des Juifs, un roi de Juda, le roi Ézéchias, qui ne voulait pas mourir. Nous sommes au chapitre 38, 38 et 39 du prophète Ésaïe, du livre du prophète Ésaïe. Et là, depuis deux autres chapitres, 36 et 38, on est dans une espèce d'interlude historique. On retrouve des informations qu'on trouve dans le livre des Chroniques, le livre des Rois, deux Rois, 18, 19, de Chroniques 32. Et ça sert un peu d'intermédiaire entre ce qu'on appelle des fois la première partie d'Ésaïe et la seconde. 66 chapitres dans le livre d'Ésaïe. Il y en a 39, autant que de livres de l'Ancien Testament dans cette première partie. Et cette première partie, on l'a vu, elle se concentre sur les jugements prophétiques d'Ésaïe de Dieu contre son peuple, mais toujours avec cette promesse de réconfort à venir. Et la deuxième partie, à partir du chapitre 40 à 66, donc 27 chapitres, autant de chapitres que de livres dans le Nouveau Testament, elle, ça va être va insister sur l'amour de Dieu, sur le réconfort, en parlant de façon stupéfiante du Messie, du serviteur qui est Jésus-Christ. Et nous allons voir des sommets dans l'histoire de la Bible, des passages fantastiques. Et entre ces deux chapitres, ces deux parties, pardon, il y a cette espèce d'interlude historique qui nous montre comment les prophéties se sont réalisées ou redoublent de prophéties. À l'époque, on a vu que, je le répète pour ceux qui n'était pas là, deux royaumes dans le peuple juif, le royaume du nord, capitale Samarie qu'on appelait Israël, et un royaume du sud, le royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem. Il y a toujours eu une grande puissance mondiale. La nature a horreur du vide, les hommes ont horreur de laisser un grand trône vacant. Donc il y a toujours quelqu'un qui veut être le top dog, le grand chien, le grand chef. À l'époque, c'était l'Assyrie. C'était un peuple cruel. Des villes entières préféraient se suicider plutôt que d'être emmenées en captivité par les Assyriens. L'Assyrie, vous vous souvenez, la capitale? Ninive. Et ça explique pourquoi le prophète Jonas, à qui Dieu avait demandé d'aller interpeller Ninive, n'avait aucune envie de le faire. Il a fallu que Dieu le force. Vous vous souvenez de l'histoire du grand poisson? Et c'était un prophète récalcitrant. Il était envoyé, mais il ne voulait pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il avait une haine en tant que juif, une peur aussi en tant que juif de ces Assyriens. Les Assyriens ont envahi le royaume du Nord en 722, 721 avant Jésus-Christ, et les ont emmenés en captivité. Il dispersait les gens qu'il conquérait. Donc il les envoyait s'installer dans des régions variées pour qu'il n'y ait pas de possibilité de rébellion. Si vous gardez un groupe de gens ensemble, et que vous leur avez fait du mal, ils vont se rebeller, s'organiser, mais si vous les dispersez, ils vont être démoralisés. C'était leur technique, leur stratégie. Et puis, il y avait eu des menaces en Juda, dans le royaume du Sud. La Syrie avait commencé à conquérir toutes les villes. Et Jérusalem était la dernière ville qui était assiégée par les Assyriens. On a vu les chapitres 36 et 37. Les menaces du Rabshaké, ce haut fonctionnaire du roi d'Assyrie, qui leur disait vous êtes cuits. Autant vous rendre tout de suite, ce n'est pas la peine d'opposer de la résistance. Et on a vu que ça, c'était un peu la technique de Satan à notre égard. Il aime bien nous convaincre qu'il n'y a plus d'espoir et qu'on ferait aussi bien de le suivre, de suivre notre chair, de profiter du péché et que Dieu est trop loin de nous, que nous sommes trop loin de lui, qu'il n'y a plus d'espoir pour nous. Et là, on va voir qu'en fait, juste ces chapitres 38 et 39, lorsqu'on lit les prophéties, on a dit qu'il y avait toujours ce problème de timing, du temps dans lequel se déroulent les événements. De toute évidence, on va voir que les chapitres 38 et 39 se passent avant la dernière attaque, la dernière menace de la Syrie, parce que le roi Ézéchias, le roi de Juda, est malade et il est déprimé parce qu'il sait qu'il y a l'Assyrie qui assiège. Il se dit qu'est-ce que va devenir mon peuple, et peut-être que lui aussi, comme nous tous, n'était pas pressé de mourir, on va le voir. Et la première partie d'Ésaïe nous fait référence, parle d'un temps où c'était donc l'Assyrie, mais l'Assyrie va être anéanti, on l'a vu dans le chapitre 37-36, verset 36, l'ange de l'Éternel détruit d'un seul coup les troupes de la Syrie. 185 000 personnes sans coup férir, c'est-à-dire sans donner de coup, on dit en français, sont détruits du jour au lendemain, pendant la nuit. Et on va voir que c'est Babylone qui va devenir le nouveau top dog, le nouveau grand chef du monde. Ils vont prendre le pouvoir et c'est eux qui vont finalement emmener en captivité le royaume du Sud, le royaume de Juda, en 586 avant Jésus-Christ. Et de là, il y aura la période de l'exil. On se souvient de Daniel, le jeune juif déporté à Babylone, et d'autres. Voilà, ça c'est le contexte historique qu'on va lire ensemble. À partir du verset 1 du chapitre 38. Alors rassurez-vous, c'est pas un cours d'histoire qu'on fait ici. On va avoir des applications pratiques. C'est pas pour devenir des historiens, c'est pour devenir de meilleurs chrétiens. On va voir qu'il y a des informations splendides. 38. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Peut-être que vous avez un verset favori. Je doute que ce soit Ésaïe 38.1. Ce n'est pas aussi non plus nécessairement le verset à utiliser quand vous rendez visite aux malades à l'hôpital. Et en même temps, c'est la vérité pour chacun de nous. On va tous mourir. C'est à peu près la seule chose de sûre avec les impôts. On dit ça en anglais. Death and taxes. C'est des choses auxquelles on n'échappe pas, sauf si on se trouve à la période du retour de Jésus. Et ça, on en reparlera. Et là, Ézéchias, il est dit, tourna son visage, verset 2, contre le mur et pria l'Éternel. Il disait, « De grâce, Éternel, souviens-toi donc que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit des pleurs abondants. C'est une façon de dire, il se mit à pleurer comme un gosse. Il se mit à chialer. Lui non plus ne voulait pas mourir. Peut-être parce qu'il avait peur pour lui-même, mais aussi parce qu'il avait à cœur ce peuple dont il était le roi, qui était assiégé, cette ville, Jérusalem, qui était assiégée par ces Assyriens menaçants. Il tourne son visage contre le mur, c'est pas pour bouder ce qui était dans la pièce, mais c'est pour trouver un peu d'intimité. Jésus nous disait, va dans ta chambre, ou va dans ton cabinet, va dans ton petit coin prier le Seigneur. Il y a de la place dans la vie chrétienne pour la prière en commun, mais ce qui est bien plus important, c'est la prière en secret. Et là, donc, il est malade, gravement malade, malade à la mort. On remarque que le prophète Ésaïe ne lui dit pas « Tu as du péché dans ta vie, confesse, sinon tu pourras être guéri. » Non, il lui dit « Tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Et dans cette prière d'Ézéchias, on peut se demander, mais c'est un peu bizarre. Parce qu'il se met en avant, il vante ce qu'il a fait comme une raison pour Dieu d'être gentil avec lui. Et ça, c'est... On va voir d'autres thèmes qui sont éclairés par le Nouveau Testament. Méfiez-vous des groupes, même qui se disent chrétiens, et qui font toute leur théologie sur l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est la vérité, mais c'est une vérité en découverte. Il y a un verset, j'aimerais que vous y tourniez, dans 2 Timothée 1. Verset 10. Il dit, « Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Christ Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort, et mise en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Jésus a révélé des choses sur la vie, sur la mort, qui n'étaient pas révélées dans l'Ancien Testament. C'était des choses qui étaient un peu floues, qui étaient un peu nébuleuses. Et ça explique certains passages dans l'Ancien Testament où on se dit, mais il parle du fait que lorsqu'ils sont morts, ils sont loin de Dieu, ils sont loin des vivants. C'est parce qu'il a fallu attendre Jésus-Christ pour avoir une bonne description de ce qui se passe. Dans le prophète, le roi David lui-même, dans le psaume 6, demandait aussi que Dieu le sauve. Parce qu'il disait, car dans la mort, verset 6, on n'évoque point ton souvenir. Qui te célébrera dans le séjour des morts? Et on est un peu perplexe, mais là encore, vous n'allez pas trouver les solutions à ce qui, pour certains, vous êtes impatients de connaître. Vous les trouvez dans l'ensemble de la Bible et surtout dans le Nouveau Testament. Ézéchias, il dit à Dieu, j'étais un bon petit garçon, tu dois être gentil avec moi. Est-ce que c'est vrai pour nous? Nous, on sait que l'amour de Dieu se manifeste par sa grâce, cet amour, ces conditions qu'il nous offre sans qu'on les mérite. Il nous donne la vie éternelle, non pas parce qu'on est bon, mais parce qu'il est bon et qu'il a payé le prix de nos péchés en mourant sur la croix. Et qu'il nous offre cette offre absolument incroyable, cette transaction absolument incroyable. Si on lui donne nos péchés, il nous donne la vie éternelle. Il ne peut pas tolérer nos péchés. On ne peut pas être assez bon pour Dieu. On est tous nuls. On est tous condamnés. Mais il nous aime tellement qu'il a dit, je vais faire payer l'amende par mon propre fils. Et si vous croyez à ça, alors moi je vous donne sa justice, je vous vois comme si vous n'aviez jamais péché, et je vous invite à venir avec moi vivre la vie éternellement dans la félicité, dans le bonheur absolu. Et je crois que c'est ça qui fait que on est impatient de savoir ce qui se passe. Il y a des versets qui nous disent qu'on n'a pas idée de ce qui nous attend. Mais c'est vrai qu'on est tous... On verra en son temps. Pour l'instant, Dieu bénis-moi. Cette prière n'était pas du tout hérétique à l'époque. Pourquoi ? Parce que Dieu, dans sa première alliance avec l'homme, avec son peuple, disait dans le Deutéronome 32, « Si vous vous comportez bien, je vous bénirai. Si vous ne vous comportez pas bien, je vous maudirai. » C'était la transaction, c'était la logique de l'Ancien Testament. C'est complètement différent dans le Nouveau Testament. En fait, cette première alliance, elle était faite pour montrer à l'homme qu'il ne pouvait pas y arriver tout seul. Est-ce que vous prenez des bonnes résolutions le premier de l'an ou à cette période ? Vous vous promettez les échecs. Si vous comptez sur vos forces, sur votre volonté de faire, de plus vous resservir de glace au dessert, d'arrêter de fumer, que sais-je ? Vous vous préparez à ce que vous vivez chaque année, vous continuez à manger autant, même plus, parce qu'on est dépité de ne pas y arriver, alors on se console en mangeant davantage quand on veut faire un régime. Je ne demande pas à personne de lever la main. Et c'était logique, il pouvait logiquement, à son époque, avec ce qu'il savait de Dieu, faire cette prière. Et on voit que Dieu honore cette prière. Là encore, on voit la puissance de la prière. Même si elle est basée sur une théologie incomplète, Dieu peut exaucer les prières. Verset 4, « Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots, « Va dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici que j'ajoute 15 années à tes jours. » Je te délivrerai ainsi que cette ville de l'emprise du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. C'est pour ça qu'on sait que ces versets, chapitres 38 et 39, ont été écrits avant 36 et 37. Et puis, donc, non seulement Dieu promet la guérison à Ézéchias, mais il lui promet la victoire sur la menace assyrienne. Et puis, comme si ça n'était pas assez, il lui donne un signe. Il a dit « Ceci sera pour toi de la part de l'Éternel, le signe que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Voici que je fais reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Ahaz, et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. » Waouh ! Un miracle incroyable. Dieu nous dit qu'il nous aime. Et ça devrait suffire. Si vous avez la foi en Dieu, si vous croyez que sa parole est la vérité, Dieu dit « Je vous aime, je t'aime », ça devrait suffire là. Mais Dieu a manifesté, il a prouvé son amour en envoyant Jésus-Christ. Il nous a donné un signe bien plus grand que celui de faire reculer l'ombre sur ce cadran solaire improvisé, j'ai l'impression. On pense que c'était des escaliers, qu'il y a une chambre... Dans les chroniques, il est question de la chambre haute du roi Ahaz. Donc il avait peut-être un petit escalier qui montait. Et en fait, on pouvait voir avec l'ombre des escaliers sur un autre mur... par le soleil, un peu l'heure qu'il était. Comme aujourd'hui, vous savez qu'à telle heure, le soleil va passer derrière le bâtiment qui vous bloque la vue. Là aussi, il va faire un miracle. Il va faire revenir l'ombre. Alors là, il y en a qui disent, bon, on voit que c'est stupide votre Bible, Ils oublient que c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Alors, je ne vous dis pas le nombre de théories pour savoir comment il a fait pour faire reculer l'ombre. Je vous ferai remarquer qu'il n'y a pas très longtemps, nous les hommes, nous avons fait reculer l'heure. Nous sommes passés à l'heure d'hiver. Du jour au lendemain, on a perdu une heure, on en a perdu, je crois. Au lieu de 2 heures, il était 3 heures du matin. Si vous deviez travailler la nuit, c'est mal barré pour vous parce que ça fait 1 heure de plus, ou l'inverse. Hein. C'est l'inverse. C'est toujours, je me trompe toujours. Il faut que je pense bien. En automne, on saute, on avance. Non, c'est l'inverse. En spring, en anglais, c'est facile. En spring, on spring forward, et en automne, on fall back. Voilà, on a changé l'heure. C'est un miracle, j'y comprends rien. Certains pensent qu'il a peut-être arrêté la rotation de la Terre pour la faire redémarrer en arrière. Mais on sait qu'en fait, on tourne sur la Terre autour du système solaire à la vitesse de 160 000 km par seconde. Ça va très vite. Et si d'un seul coup, on arrête, on serait tous bousculés contre le mur. On serait tous écrasés contre le mur. S'il y a un arrêt instantané. Si maintenant on prend 15 minutes, ça devient beaucoup plus facile. Il y a un autre épisode de la Bible, vous vous souvenez de la bataille de Gabaon, où Josué avait besoin de plus de temps pour anéantir ses ennemis, et donc Dieu a fait que le soleil se tienne immobile. Il y a une journée plus longue sur la terre, dans cet endroit de Gabaon. S'il y a eu une journée plus longue à Gabaon, ça veut dire qu'à l'opposé, il doit y avoir eu une nuit plus courte. Vous êtes d'accord? Ce qui est remarquable, c'est que les écrits des Aztèques, etc., parlent d'une nuit plus courte. Peu importe, il a peut-être simplement modifié les rayons de la lumière, il les a fait bouger un peu différemment. Ça a été un signe pour le roi. Et ça a été un signe, non seulement qu'il allait être guéri, il l'a vérifié, mais qu'il allait être délivré des Assyriens. Verset 9, écrit d'Ézéchias, roi de Juda, lorsqu'il fut malade et survécut à sa maladie, je me disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Notez bien ce terme, le séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années, je disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants, je ne contemplerai plus aucun être humain parmi les habitants du monde. Il parle de la mort en termes imagés. Ma demeure est enlevée, ma tente est enlevée et transportée loin de moi comme une tente de berger ou comme un tisserand, j'enroule ma vie, il m'arrache du métier. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé, je me suis contenu jusqu'au matin comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé, je poussais des petits cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe, mes yeux se tournaient misérablement vers le haut. Seigneur, je suis oppressé, sois mon garant. Que dirais-je? Il m'a répondu, et c'est lui-même qui a agi. Je marcherai humblement pendant toutes mes années à cause de l'amertume de mon âme. Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit. Amen. C'est par elles que je respire encore. Amen. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici que mon amertume elle-même s'est changée en paix. Toi-même as pris plaisir à retirer mon âme du gouffre, du néant, car tu as jeté derrière ton dos tous mes péchés. Amen. Car ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera, ce n'est pas la mort qui te louera. Ceux qui sont descendus dans la fosse ne s'attendent plus à ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te célèbre, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître au Fils ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner mes instruments tous les jours de notre vie à la maison de l'Éternel. Verset 21, qui est placé plus tôt dans un autre récit, Ésaïe avait dit qu'on apporte un paquet de figues et qu'on les étende sur l'ulcère et Ézéchias vivra. Ézéchias avait dit, à quel signe connaîtrais-je que je monterais à la maison de l'Éternel? C'était le signe de l'ombre qui revenait en arrière. On voit là la mauvaise compréhension de ce qui se passe après la mort qu'avait le roi Ézéchias, basé sur ce qui avait déjà été révélé par la parole de Dieu. Nous sommes, nous, au bénéfice de 2 Timothée 1:10, parce que Jésus nous a révélé beaucoup de choses. Il y a le terme « le séjour des morts ». En hébreu, c'est le mot « Sheol ». C'est aussi le mot, lorsqu'il est question, j'irai à la tombe. C'est traduit des fois, ce mot Sheol est traduit par la tombe, le séjour des morts. Il y a un autre terme qui est traduit des fois par l'enfer, la géhenne, le lac de feu et de soufre, le lieu de tourment éternel. Et lorsque l'on regarde l'Ancien Testament, il est question de certains de ces termes, mais il faut encore voir le Nouveau Testament. J'aimerais qu'on se tourne dans Luc 16, on ne va pas lire ensemble, mais pour que vous sachiez où ça se trouve. Luc 16, versets 19 à 31. C'est l'épisode de l'homme riche et du pauvre Lazare. Certains pensent que ça, c'était une parabole. Jésus ne dit pas que c'est une parabole, contrairement à ce qu'il disait lorsqu'il expliquait des choses en parabole. Dans aucune parabole ne nomme-t-il une personne par un nom. Ici, il parle de Abraham, de Lazare plutôt, Lazare avec précision. C'est un récit qui est réel pour Jésus, ce n'est pas une allégorie. Et lorsqu'il est dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham, ça c'est Lazare, le pauvre, verset 22, le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, en grec c'est le mot Hadès, qui correspond au mot Sheol, on voit qu'il est en proie au tourment et il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et donc il y avait cet endroit, il y a cet endroit où d'un côté il y a ceux qui sont dans la félicité, dans le bonheur avec Abraham, dans le sein d'Abraham, et de l'autre côté il y a l'endroit de tourment. Ils peuvent se crier d'un côté à l'autre. Ça me fait penser au métro aux heures de pointe. On peut parler à des personnes en face en parlant normalement à cause de la réflexion parabolique sur la forme des tunnels. Mais ils peuvent pas se toucher, ils peuvent pas passer d'un endroit à l'autre parce qu'entre les deux, il y a un abîme infranchissable qu'on appelle des fois le puits sans fond dans Révélation, l'Apocalypse 9. Et un autre mot qu'il faut connaître, c'est le mot enfer, la géhenne aussi. C'est un mot grec, la géhenne, qui vient de l'hébreu pour désigner la vallée de Hinnom. Et cette vallée de Hinnom, c'est une façon d'illustrer ce que peut être l'enfer. C'était aujourd'hui, quand on va à Jérusalem, on espère y aller bientôt avec certains d'entre vous, avec tous, pourquoi pas. C'est une vallée qui se trouve à Jérusalem. Elle a changé d'aspect, mais à l'époque du Nouveau Testament, c'était là qu'on déchargeait toutes les ordures. Non seulement les ordures, mais ça faisait les gravats, les animaux morts. Tout allait là-bas. C'était un endroit répugnant. Parce qu'il y avait le feu qui brûlait pour faire brûler ces ordures. Il y avait des vers, des asticots. Il y avait des carcasses de chiens morts, de chats. Ça sentait très mauvais. Et c'était un endroit où la fumée s'élevait, dans la fumée duquel la fumée s'élevait continuellement. Et on sait, on a vu la fumée de leur tourment dans l'Apocalypse, parlant de cet endroit de l'enfer. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, alors qu'il est, il n'y a personne en enfer? Là, vous n'y comprenez plus rien. Je croyais que quand on mourait et qu'on n'avait pas le Christ, on allait en enfer. Non, on va dans le lieu de tourment au séjour des morts. Il faut attendre le jugement dernier, et c'est là que Jésus enverra les mauvais dans le lac de feu et de soufre. C'est là qu'il y aura, après le jugement, la condamnation éternelle. Avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, avant qu'il ait payé le prix, ceux qui avaient vécu en faisant confiance à Dieu, en croyant à Jésus-Christ par anticipation, en croyant au sacrifice de la croix par anticipation, allaient dans le sein d'Abraham. Il est dit dans Éphésiens, dans 1 Pierre, que Jésus est allé vider l'enfer de ses captifs. Aujourd'hui, lorsque vous mourrez, votre âme va tout de suite avec Jésus. C'est pour ça que Paul disait « Je préférerais de mourir parce que c'est mieux d'être avec Jésus plutôt que d'être ici avec tous les problèmes que vous me posez, toutes les persécutions que je subis. Mais par amour pour vous, je veux rester, je veux accomplir mon œuvre. » Si vous mourrez aujourd'hui, votre âme est avec Christ, instantanément. Ce soir, tu seras avec moi au paradis. C'est un autre terme pour le ciel, pour désigner la présence avec Jésus. Mais votre corps, lui, il reste, et c'est seulement lorsque Jésus va revenir qu'il va y avoir cette résurrection des morts. Il va d'abord venir chercher son église. Vous serez enlevé, vous passerez par le plafond si vous êtes ici. Vous serez enlevé, arpazo, capturé comme un rapt. C'est plus facile de passer, d'être sur la plage quand ça arrive. Vous ne voudrez pas prendre les gravats sur la tête. Mais vous serez tout de suite avec Jésus. À ce moment-là, lorsqu'il viendra rechercher son Église, vous serez avec votre corps physique qui aura les mêmes propriétés bizarres de celles qui permettaient à Jésus-Christ de traverser des murs. Là aussi, les incroyants disent « c'est stupide vos idées là ». En fait, nous sommes formés de vide. Ce qui nous fait, qui nous empêche de traverser le mur, c'est pas parce qu'on a de la matière, c'est parce que en fait, il y a des champs électromagnétiques qui pourraient être modifiés par Dieu comme il le veut, qui font qu'on peut, nos atomes qui sont que du vide, on n'est que du vide qui tourne très vite sur lui-même. Lorsqu'on regarde la matière, on s'aperçoit que c'est du vide et des très petites particules de matière. Et en plus, quand on arrive à casser ces petites particules de matière, on s'aperçoit qu'on est, on n'est rien du tout. C'est en lui que nous avons notre être. On n'est que du vide. Et donc, je récapitule. Si vous connaissez Jésus, vous êtes au bénéfice de son salut. Quand vous mourrez, s'il n'est pas revenu, votre âme sera avec lui. Votre corps sera dans la terre. Le corps des non-croyants est dans la terre. Leur âme va dans le séjour des morts. Ils seront ressuscités. Vous serez tout de suite avec Jésus. Vous serez ressuscités aussi. Vous aurez un corps avec des propriétés fantastiques. Et vous serez pour toujours avec Dieu. Est-ce que ça ne vous donne pas envie de savoir vraiment comment ça se passe, plus en détail ? Vous dites, non, je préfère attendre. Moi, je suis un peu impatient de voir comment ça va se passer. Dieu disait à Ézéchias, mettez vos affaires en ordre. Vivez pour Dieu, ne gardez pas du péché habituel, ne gardez pas des choses, des gens. Vous avez demandé pardon aux gens, allez demander pardon maintenant. N'attendez pas. Mettez vos affaires en ordre. Certains disent que, puisqu'il y a eu la guérison, Ésaïe était un faux prophète, il avait dit « tu vas mourir ». Il ne lui avait pas dit « quand ?» Et c'est vrai que ça a impliqué, mais à chaque fois qu'il y a une prophétie de jugement, c'est toujours une invitation de Dieu à vous repentir. Merci Seigneur. Sinon, nous pourrions aller voir ce lieu de tourment de plus près. Ce passage se termine par le chapitre 39 Et là, on va voir que ce n'est pas nécessairement une bonne chose que d'insister auprès de Dieu, d'avoir du temps, d'avoir notre propre volonté accomplie. Lisons ensemble le chapitre 39. « En ce même temps, Merodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et une présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias s'en réjouit, il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Le prophète Ésaïe vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit « Qu'ont dit ces gens et d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchias répondit « Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. » Ésaïe dit encore « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias répondit « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias « Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici que les jours viennent où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, ils seront des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Et Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. » Ah, Ézéchias, il avait si bien commencé. Il avait détruit les idoles. Il avait été un bon roi. Et pendant ces 15 dernières années, il a montré son égoïsme profond. Le fils qui est né de lui, 3 ans après cette prophétie, c'était le plus mauvais des rois de Juda, le roi Manassé, qui a fait beaucoup de tort au royaume de Juda, même si à la fin il s'est repris, il est revenu au Seigneur, mais il a été une grande malédiction pour le peuple de Juda. On voit aussi que, tout d'abord au verset 1, on sait que les Babyloniens, ce sont ceux qui fabriquaient les ziggourats. Les ziggourats, c'était ces pyramides qui permettaient l'observation des étoiles. C'était des grands astronomes. Et ça corrobore l'idée qu'il y a eu un problème astronomique causé par le Seigneur pour reculer l'ombre, parce qu'ils savaient qu'il s'était passé quelque chose, et ils s'étaient sans doute intéressés à trouver une raison. Et on leur avait appris l'histoire du roi Ézéchias. Il faut encore se replacer dans le contexte. Babylone, c'était la nouvelle puissance montante. Ézéchias, c'était le roi d'un petit pays qui était réduit à la portion congrue. Il n'y avait plus qu'une ville, pratiquement Jérusalem. Et Ézéchias était orgueilleux. Qui n'est pas orgueilleux parmi nous? Levez la main. Non. Et il était très honoré de voir que ce grand pays ou cette puissance montante venait le voir, lui, ce petit royaume de rien du tout, à vue d'homme. Et du coup, par orgueil, il va leur montrer... Il lui envoie un cadeau, il reçoit ses envoyés, il leur montre toutes ses richesses. Il leur montre toutes les belles choses que Dieu, avec lesquelles Dieu l'a béni, a béni le peuple de Juda. On peut penser que ces envoyés, en fait, venaient chercher une alliance avec ce pays contre la Syrie. C'est toujours le jeu des alliances lorsqu'on cherche à devenir la puissance montante, la puissance suprême. Et ils ont fait des cadeaux, et Ézéchias leur montre tous ses trésors, tout son arsenal. Il leur montre ses A-47, il leur montre ses exaucés, il leur montre toutes les armes. C'est pas très malin, parce que quelques années plus tard, ce même peuple de Babylone va venir et connaîtra tout ce qui se passe. Ils sauront qu'ils ont des ressources, ils sauront comment les attaquer, ce sera très facile pour eux. Pourquoi ? Parce que Ézéchias succombe à son orgueil. Est-ce que ça vous arrive des fois de trop parler par orgueil? Ce passage, je l'ai 39.2, je m'en souviens d'avoir appris, c'est un des premiers textes que j'avais étudié un peu, ou lu dans ma lecture de la Bible, des années. Et c'est quelque chose qui m'est resté, lorsque, pas nécessairement tout montrer, pas par dissimulation, mais par sagesse, par prudence. Et c'est pour ça que je suis sur Facebook. Non, Facebook peut être une arme redoutable. Si vous voulez savoir comment me supprimer, vous allez sur Facebook et vous trouverez la façon de le faire. Il y en a qui savent ce que je veux dire ? Tant mieux. J'ai montré une allergie à un certain produit par des photos. Donc maintenant, il serait très facile de causer une réaction allergique pour moi. Soyez prudents avec Facebook. Vous voyez que c'est actuel, la Bible ? Il n'est pas marqué Facebook, mais le principe est le même. Ne divulguez pas toutes les informations qui sont en votre possession. Il est flatté que des gens viennent de si loin pour le voir. Moi, je suis flatté. Il y a des gens de Maganiosk qui viennent ici. Wow. Là, ils venaient de Ninive, plutôt de Babylone, de Ur, de la Chaldée. Bagdad. Il lui promet, il lui annonce qu'en fait ils vont partir en exil et que ses enfants seront embauchés par l'autorité de Babylone. Le prophète Daniel faisait peut-être partie de cette prophétie. Eunuque, on les castrait pour qu'ils soient concentrés sur le service de l'État, qu'ils n'aient pas la tendance à prendre le pouvoir et à engendrer une dynastie. On était tranquille. Daniel, il n'est pas dit qu'il a eu de femme ou qu'il a eu de compagne. Il était un grand responsable dans le royaume de Babylone par la suite. Et cette réflexion du roi Ézéchias qui dit « Bon, après tout, c'est pas si terrible tes nouvelles, au moins pendant que je suis là, ça se passera bien. Après moi, le déluge, je m'en moque. » Il montre son égoïsme et on se demande s'il était parti au moment où Dieu voulait le prendre, s'il n'aurait pas été mieux pour tout le monde, pour lui-même. Il aurait bénéficié de 15 ans de plus de félicité dans le sein d'Abraham. Alors là, encore une fois, on ne sait pas ce qui se passe vraiment. On a beaucoup plus d'informations. On sait que on est en présence de Jésus. On verra l'annonce de la délivrance à partir du chapitre 40, et on verra que, on l'a rappelé qu'il n'y a pas deux auteurs d'Ésaïe. Jésus parlait du premier Ésaïe, les chapitres 1 à 39 et les chapitres 40 à 66, en disant le même Ésaïe a dit. C'est les critiques de la Bible qui essayent toujours de dire que ces prophéties ont été écrites après coup. Non, elles ont été écrites avant qu'elles ne se produisent, et ça c'est la signature de Dieu. Il est le seul à pouvoir écrire les choses avant qu'elles ne se produisent. Nous sommes au bénéfice de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est que tout dépend de Dieu qui a déjà tout accompli. Notre seule réponse est de lui dire « Oui Seigneur, je crois à ce que ta parole annonce ».